délicieusement de toutes les misères. Elle avait une fonction, un but, et elle le sentait bien, sa sérénité heureuse. Elle faisait sûrement ce qu'elle était venue faire. Cependant, à cette minute même, elle comprit que la chimérique n'était pas morte tout entière en elle. Un léger bruit venait de voler dans le profond silence, et elle avait levé la tête. Quel était le médiateur divin qui passait? Peut-être le cher mort qu'elle pleurait et qu'elle croyait deviner à son entour? Toujours, elle devait rester un peu l'enfant croyante d'autrefois, curieuse du mystère, ayant le besoin instinctif de l'inconnu. Elle avait fait la part de ce besoin. Elle l'expliquait même scientifiquement. Si loin que la science recule les bornes des connaissances humaines, il est un point sans doute qu'elle ne franchira pas. Et c'était là, précisément, que Pascal plaçait l'unique intérêt à vivre, dans le désir qu'on avait de savoir sans cesse davantage. Elle, dès lors, admettait les forces ignorées où le monde baigne, un immense domaine obscur, 10 fois plus large que le domaine conquis déjà, un infini inexploré à travers lequel l'humanité future monterait sans fin. Certes, c'était là un champ assez vaste pour que l'imagination pût s'y perdre. Aux heures de songerie, elle y contentait la soif impérieuse que l'être semble avoir de l'au-delà, une nécessité d'échapper au monde visible, de contenter l'illusion de l'absolue justice et du bonheur à venir. Ce qui lui restait de son tourment de jadis, ses envolées dernières, s'y apaisaient, puisque l'humanité souffrante ne peut vivre sans la consolation du mensonge. Mais tout se fondait heureusement en elle. À ce tournant d'une époque surmenée de science, inquiète des ruines qu'elle avait faites, prise d'effroi devant le siècle nouveau, avec l'envie affolée de ne pas aller plus loin et de se rejeter en arrière, elle était l'heureux équilibre, la passion du vrai élargie par le souci de l'inconnu. Si les savants sectaires fermaient l'horizon pour s'en tenir strictement au phénomène, il lui était permis, à elle, bonne créature simple, de faire la part de ce qu'elle ne savait pas, de ce qu'elle ne saurait jamais. Et si le credo de Pascal était la conclusion logique de toute l'œuvre, l'éternelle question de l'au-delà qu'elle continuait quand même à poser au ciel rouvrait la porte de l'infini devant l'humanité en marche. Puisque toujours il faudra apprendre en se résignant à ne jamais tout connaître, n'était-ce pas vouloir le mouvement, la vie elle-même, que de réserver le mystère, un éternel doute et un éternel espoir? Un nouveau bruit, une aile qui passa, l'effleurement d'un baiser sur ses cheveux, la fit sourire cette fois. Il était sûrement là, et tout en elle aboutissait à une tendresse immense, venue de partout, noyant son être. Comme il était bon et gai, et quel amour des autres lui donnait sa passion de la vie! Lui-même, peut-être, n'était qu'un rêveur, car il avait fait le plus beau des rêves, cette croyance finale à un monde supérieur, quand la science aurait investi l'homme d'un pouvoir incalculable. Tout accepter, tout employer au bonheur, tout savoir et tout prévoir, réduire la nature à n'être qu'une servante, vivre dans la tranquillité de l'intelligence satisfaite. En attendant, le travail voulu et réglé suffisait à la bonne santé de tous. Peut-être la souffrance serait-elle utilisée un jour. Et, en face du labeur énorme, devant cette somme des vivants, des méchants et des bons, admirable quand même de courage et de besogne, elle ne voyait plus qu'une humanité fraternelle, elle n'avait plus qu'une indulgence sans bornes, une infinie pitié et une charité ardente. L'amour, comme le soleil, baigne la terre, et la bonté est le grand fleuve où boivent tous les cœurs. Clotilde, depuis 2 heures bientôt, tirait son aiguille du même mouvement régulier pendant que sa rêverie s'égarait. Mais les cordons des petites brassières étaient recousus. Elle avait aussi marqué des couches neuves achetées la veille. Et elle se leva, ayant fini sa couture, voulant ranger ce linge. Au dehors, le soleil baissait. Les flèches d'or n'entraient plus que très minces et obliques par les fentes. Elle voyait à peine clair. Elle dut aller ouvrir un volet. Puis, elle s'oublia un instant devant le vaste horizon brusquement déroulé. La grosse chaleur tombait, un vent léger soufflait dans l'admirable ciel d'un bleu sans tache. À gauche, on distinguait jusqu'aux moindres touffes de pins parmi les écroulements sanglants des rochers de la Seille, tandis que vers la droite, après les coteaux de Sainte-Marthe, la vallée de la Viorne s'étalait à l'infini dans le poudroiement d'or du couchant. Elle regarda un instant la tour de Saint-Saturnin, tout en or, elle aussi, dominant la ville rose. Et elle se retirait lorsqu'un spectacle la ramena, la retint, accoudée, longtemps encore. C'était, au-delà de la ligne du chemin de fer, un grouillement de foule qui se pressait dans l'ancien jeu de mail. Clotilde se rappela aussitôt la cérémonie et elle comprit que sa grand-mère Félicité allait poser la première pierre de l'asile Rougon, le monument victorieux, destiné à porter la gloire de la famille aux âges futurs. Des préparatifs énormes étaient faits depuis 8 jours. On parlait d'une auge et d'une truelle en argent, dont la vieille dame devait se servir en personne, ayant tenu à figurer, à triompher, avec ses 82 ans. Ce qui la gonflait d'un orgueil royal, c'est qu'elle achevait la conquête de Plassans pour la 3e fois, en cette circonstance. Car elle forçait la ville entière, les 3 quartiers, à se ranger autour d'elle, à lui faire escorte et à l'acclamer comme une bienfaitrice. Il devait y avoir, en effet, des dames patronesses, choisies parmi les plus nobles du quartier Saint-Marc, une délégation des sociétés ouvrières du vieux quartier, enfin les habitants les mieux connus de la ville neuve, des avocats, des notaires, des médecins,